Il est 19h sur RDWA. Le Flash, Radio France Internationale.
RFI.fr et l'application RFI Pure Radio.
Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 27 avril, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, c'est la session soirée de l'info sur RFI. 3 heures d'actualité, ça commence maintenant. Bienvenue à tous. Au programme, dans 10 minutes, le grand reportage qui nous emmènera à Tchernobyl, lieu de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. C'était il y a 40 ans, mais également Tchernobyl, lieu en 2022 du début de l'invasion russe. Tchernobyl devenu la hantise de l'Ukraine. Ce sera avec Emmanuel Chaz. Juste après, le débat du jour, alors que ce lundi s'ouvre un procès retentissant aux États-Unis intenté par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, contre OpenAI, l'entreprise américaine d'intelligence artificielle. Et à cette occasion, on va confronter les géants d'aujourd'hui avec ceux de demain. Avec cette question, est-ce que les GAFAM vont rester géants? Comment les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft vont-ils évoluer face à l'intelligence artificielle? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, le dossier sera consacré à la hausse des dépenses militaires dans le monde. 18h30, temps universel, Afrique Soir, première édition de ce lundi, 19h10 TU, dans 2h10, le grand entretien du soir. Ce soir, Candice Prévost, footballeuse, ancienne joueuse du PSG, cofondatrice de l'association Little Miss Soccer. Et la question, pourquoi la France, contrairement à ses voisins européens, ne parvient pas à créer d'engouement autour du football féminin? Et puis, accent d'Europe, dans 10 minutes, qui sera en Allemagne. On a de plus en plus le sentiment que la crise de l'énergie relègue au second plan la transition écologique. Ce sera à 19h40, temps universel. Voilà pour le programme, mais pour l'heure 17h02 TU. Bonsoir Mathis Limano.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une de votre journal, le patron des Nations Unies qui tire la sonnette d'alarme concernant une nouvelle course à l'arme nucléaire.
Oui, la déclaration vient d'Antonio Guterres en ouverture d'une réunion des pays signataires du TNP à New York, le traité de non-prolifération nucléaire. Un rendez-vous qui se tient tous les 5 ans et doit durer 3 semaines, mais les 2 dernières éditions ont fait chou blanc faute de terrain d'entente entre les participants. Karine Auton, bonsoir.
Bonsoir Mathis, bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de New York pour RFI. Cette fois-ci, il est encore plus important pour les pays de trouver un consensus, alors que les risques de prolifération n'ont jamais été aussi élevés depuis le début du XXIe siècle.
Oui, lors de la dernière conférence il y a 4 ans, après l'invasion russe de l'Ukraine, le secrétaire général de l'ONU avait averti que l'humanité était à un malentendu, à une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire. Ces dernières années où l'Iran a continué à enrichir son uranium et développer son arsenal en interdisant les inspections de l'AIEA et l'attaque israélo-américaine qui en a découlé, tout ça donne raison à Antonio Guterres. Tout le monde est bien conscient que nous sommes à un moment où les tensions entre les puissances nucléaires font craindre une nouvelle course à l'arme atomique. La Chine a 600 têtes nucléaires et vise en avoir 1000 d'ici 4 ans. Les États-Unis et la Russie en ont au moins 3000 chacun et investissent massivement dans l'intelligence artificielle et l'armement. Pour comparaison, la France en a 290 et compte en produire un peu plus dans les mois qui viennent, étant donné le contexte global.
Karine Auton, merci à vous. Depuis New York et toujours au siège de l'ONU, le Conseil de sécurité se réunit ce soir. Au menu, la sécurité maritime avec le détroit d'Ormuz en toile de fond. L'Iran insiste et veut faire payer aux navires un droit de passage, un péage qui ne repose sur aucune base légale, répond l'Agence maritime des Nations Unies. Et dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères est lui en Russie. Poignée de main chaleureuse entre Abbas Araghchi et Vladimir Poutine, l'occasion de faire le point sur la situation régionale. Alors que les négociations sont au point mort, la Russie fera tout son possible pour que la paix revienne au Moyen-Orient, a promis Vladimir Poutine. Mais cette rencontre est surtout l'occasion pour l'Iran de montrer, Noé Pignied, qu'elle n'est pas seule face aux États-Unis.
Avec cette visite en Russie, le ministre des Affaires étrangères iranien cherche à envoyer un message clair au reste du monde. La République islamique dispose d'un allié solide dans la guerre qu'il oppose aux États-Unis et à Israël.
C'est l'occasion idéale de consulter nos amis russes au sujet de l'évolution de la guerre durant cette période et de la situation actuelle et d'examiner ensemble les derniers développements. Je suis convaincu qu'il sera important pour nous d'assurer la coordination nécessaire à ce sujet.
Même si elle ne s'implique pas directement militairement, la Russie est l'un des principaux fournisseurs d'armes de la République islamique. Elle lui donnerait aussi des renseignements pour l'aider à cibler des positions américaines. En faisant grimper les prix du pétrole et en réduisant les stocks d'armes des États-Unis, le conflit fait les affaires de Moscou, mais face à la délégation iranienne, Vladimir Poutine joue les faiseurs de paix.
Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, les intérêts de tous les peuples de la région, afin que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible.
Depuis la chute de Bachar el-Assad en Syrie, le régime iranien est le dernier partenaire de la Russie au Moyen-Orient. Sa survie est donc cruciale pour le Kremlin.
Et le monde a enfin compris, grâce à cette guerre, la véritable puissance de l'Iran, un pays stable et robuste. Ce sont les mots d'Abbas Araghchi lors de sa visite en Russie. Le chef du Hezbollah joue avec le feu, un feu qui finira par brûler tout le Liban. Déclaration signée Israël Katz. Le ministre de la Défense reproche à Naïm Kassem de ne pas se plier aux négociations et de poursuivre les combats. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer la trêve en vigueur. Ce lundi, Israël a bombardé la plaine de la Beka. Hier, les frappes ont fait 14 morts au Liban. Il est 17h06 à Bamako. Après un week-end de chaos, c'est un calme relatif qui règne au Mali. Mais la situation reste très volatile. Après les attaques coordonnées menées ce week-end par les djihadistes du Jnim et les indépendantistes du FLA, la ville du Nord, Kidal, est tombée entre leurs mains. À Kati, ville garnison en périphérie de la capitale, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans une attaque. Le premier ministre, Abdoulaye Maïga, s'est lui rendu au chevet de blessés cet après-midi. Mais du côté de la présidence, c'est toujours le silence radio pour Assimi Goïta. Explication avec Jean-Hervé Ezekiel, directeur du projet Sahel de l'organisation internationale Crisis Group basée à Dakar. Il est interrogé par Amélie Tulé.
Une série d'attaques graves, hein, la mort du ministre de la Défense, l'attaque du domicile d'autres personnalités. C'est une situation sérieuse, c'est normal que le président soit sécurisé. Pour le moment, on a entendu le ministre de la décentralisation, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, le chef d'état-major des armées. Mais c'est vrai que le coup porté par la coalition du FLA et du JNIM est sévère. Les autorités semblent un peu sonnées, hésitantes sur la phase qui va suivre. Il y a beaucoup de spéculations en ce moment sur la suite des événements. Toute une série de rumeurs qui courent au sujet du sort des autres personnalités de la junte, voire aussi de possibles manœuvres, de renversements, d'ajustements majeurs au sommet de l'État. Je crois qu'il faut rester prudent sur tout ça. C'est aussi une bataille des récits qui se déroule maintenant. Mais encore une fois, la situation reste volatile.
Et pour suivre la situation au Mali en temps réel, rendez-vous sur le live sur notre site RFI.fr. En France, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont adopté le rapport final de leur collègue d'extrême droite, Charles Alloncle, malgré des méthodes largement dénoncées. 80 prisons bloquées ce lundi en France, un mouvement à l'appel du principal syndicat du secteur, l'UFAP-UNSA Justice. Les agents pénitentiaires demandent 5000 postes supplémentaires à l'échelle nationale pour faire face à une population carcérale qui ne cesse d'augmenter. En mars, le taux d'occupation des prisons françaises a atteint les 137%. Tanita Fallet était à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à l'ouest de Paris. Ce lundi matin, seul le personnel médical et les agents en service pouvaient entrer dans l'établissement. Reportage.
7 heures devant la prison de Nanterre, une cinquantaine d'agents se sont réunis dans une ambiance conviviale. Un feu de pneus crépite, signe de leur mécontentement. Ils sont rares à vouloir s'exprimer au micro, mais ce surveillant pénitentiaire, qui préfère rester anonyme, a bien voulu raconter son quotidien.
Les personnes détenues de plus en plus virulentes, énormément de matelas sur l'embâtiment, un agent pour gérer entre 100 et 120, 140 détenus.
En cause, la surpopulation carcérale. Ici, à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, 1300 personnes sont détenues pour seulement 592 places. Conséquences.
Les tensions internes détenues et aussi avec les collègues qui sont en charge de leur bien-être. Quoi.
Pour faire face, l'UFAP-UNSA estime qu'il manque 30 postes à Nanterre.
Sans compter l'absentéisme. Et l'absentéisme n'est pas dû à un manque de volonté de travailler, il est dû à un épuisement.
Samir est délégué local du syndicat. Il se sent complètement délaissé par les pouvoirs publics.
Ouais, on est méprisé parce qu'on est dans les murs, parce que personne ne nous voit, parce qu'on est dans l'ombre, mais en attendant, à l'intérieur, ça boue.
Parmi les solutions proposées, recourir à des alternatives à l'incarcération pour les courtes peines, comme le bracelet électronique.
Un reportage signé Tanita Fallet. Et puis c'est l'histoire d'une super chaussure aux conséquences sur la bourse. Hier, le Kenyan Sebastian So a remporté le marathon de Londres, pulvérisant le record. 1h59 minutes et 30 secondes. La ligne d'arrivée franchie, il a brandi ses chaussures de la marque Adidas. Résultat, l'action en bourse de la marque aux trois bandes progressait ce lundi de 2%. Merci d'écouter RFI. Il est 17h10 en temps universel. La suite des programmes sur la Radio Mondiale.
Vous êtes à l'écoute de RDIWA 101.7, 107.5.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici RDIWA et c'est l'heure de l'interview avec au studio Brigitte. Bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas.
Bonjour Yves.
Bonjour à vous deux. Vous êtes présents pour représenter pour un RDIWA ouvert et solidaire et vous êtes ici pour nous annoncer donc ce rendez-vous du 1er mai qui aura lieu donc devant la cité scolaire de Die et à 10h et puis ensuite il y aura un cortège qui débutera donc à partir de la cité scolaire de Die et qui suivra ensuite un cheminement en passant par le centre-ville, passer devant la sous-préfecture où il y aura un discours et finir ensuite place de l'évêché. Cette organisation vouée à cette manifestation du 1er mai, avant de commencer, on peut peut-être aussi proposer de rappeler ce qu'est le 1er mai. Et pour cela, Brigitte, je crois que tu es très au fait de la chose.
Enfin, je suis très au fait comme quelqu'un d'engagé depuis très longtemps, en fait. Et alors, une première précision, il ne s'agit pas de la fête du travail, comme Pétain l'avait qualifié, inspiré par le régime nazi, mais il s'agit bien de la fête des travailleurs qui commémore les événements de Chicago. Il y a eu plusieurs morts parmi la foule qui revendiquaient une journée de 8 heures et une réitération à Fourmi dans le Nord où il y a eu tout de même 9 morts parmi les manifestants qui réclamaient aussi une journée de 8 heures, des femmes et des enfants. Voilà, donc c'est un événement commémoratif et revendicatif aussi qui s'inscrit dans une histoire.
Et puis je vois sur au niveau de l'histoire aux États-Unis, c'est que aussi les comptables, les années comptables se terminent le 1er mai. Et voilà, donc c'était ce terme qui a été utilisé à l'époque. Et on peut peut-être revenir en France par rapport à cette commémoration qui à partir de 1889.
C'est-à-dire qu'en fait, ça s'inscrit aussi dans toute une histoire révolutionnaire aussi, hein, qui célèbre l'engagement et le rassemblement pour la classe ouvrière qui a donc comment dominé dans toute la fin du 19e et début 20e avec l'ère industrielle. L'ère industrielle, cependant, il y a toujours eu la classe ouvrière. N'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est une classe populaire avant tout, avec de nombreux métiers, y compris du travail domestique qui est complètement invisibilisé.
Face à ce monde ouvrier, quels étaient les antagonistes ?
C'était surtout, comme l'a dit Brigitte, le monde du travail, représenté par les grands syndicats, les grandes confédérations de l'époque, qui, le 1er mai, était un rendez-vous important, et tout le monde du travail, toute catégorie sociale confondue, se retrouvait pour célébrer la fête des travailleurs. Voilà, donc les confédérations syndicales ont joué et continuent à jouer un rôle très très important le 1er mai. On sort d'un épisode législatif là à l'Assemblée nationale où il y a eu une tentative par le pouvoir macroniste de remettre en cause le 1er mai pour certaines professions. Voilà, il y a eu une montée de boucliers. Les Français s'y sont opposés, leurs représentants à l'Assemblée nationale aussi. C'est quand même une date très symbolique et très importante dans l'imaginaire, pas seulement l'imaginaire ouvrier et qui représente la journée pour laquelle les gens sortent dans la rue. C'est une journée revendicative, c'est une journée de solidarité, c'est une journée pour se compter, pour se faire plaisir, pour se retrouver, pour faire connaissance, se faire confiance et préparer les luttes de demain.
Je reviens un peu sur l'historique. Donc, il y avait ces luttes, ces grèves en France qui étaient durement réprimées, voire oppressées, opprimées. On peut peut-être rappeler aussi ce qui s'est passé et qui a peut-être initié cette fête des travailleurs.
C'est les revendications qui ont été en effet réprimées rudement tout au long de l'histoire de la classe ouvrière, hein, y compris des classes populaires, parce que c'est vrai que auparavant c'était la classe paysanne, enfin les paysans qui étaient réprimés. Et, on est toujours dans un même ordre du monde avec des gens qui sont des possédants, des dominants, et puis des personnes qui n'ont pas de capital, enfin ne serait-ce que, enfin ils ont leurs bras et leur intelligence, mais ils n'ont pas de capital, et ceux-ci, quand ils réclament des conditions de travail acceptables, sont durement réprimés. Ça a été le cas tout au long de la classe, des luttes de la classe ouvrière, et c'est encore le cas. Ce qui est le cas actuellement et qui devrait mobiliser justement le 1er mai, c'est les licenciements massifs et les annonces de plans sociaux qui se répètent et qui nous plongent dans une ère très sombre concernant le travail et l'accès aux ressources pour tout le monde.
Je reviens un peu sur ce terme donc de ces luttes, ces oppressions de ce monde ouvrier. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels étaient ces possédants et ces dominants à ce moment-là aussi. Est-ce que il y a une certaine persistance de cette classe aujourd'hui toujours?
Alors le monde capitaliste évidemment s'est transformé. On avait à une certaine époque un capitalisme familial avec un chef d'entreprise et sa famille. On a connu ça à dit comme ailleurs, hein, qui possédait une entreprise et qui employait 300, 400, 500 ouvriers, ouvrières dans le textile, dans les mines, dans tous ces secteurs qui étaient des gros contributeurs à l'emploi jusque dans les années 60-70. Aujourd'hui la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle était, il faut le reconnaître.
Est-ce qu'elle n'a jamais été,
voilà,
le sociologue.
Voilà, est-ce qu'elle n'a... et aujourd'hui, je crois que c'est 15% des salariés qui représentent la classe ouvrière, et quand on parle des ouvriers, évidemment, c'est au sens large du terme, on y inclut évidemment tous les employés de bureau, les professions intermédiaires, les professions libérales si elles veulent bien, les auto-entrepreneurs. Je dirais que quand on parle de classe ouvrière, c'est dans son spectre le plus large et pas simplement les gens qui sont avec une qualification professionnelle d'ouvrier.
Hein, oui, c'est pas simplement l'ouvrier métallurgiste de 50 voilà. ans, cégétiste.
Oui.
C'est beaucoup plus large, en effet, comme représentation, y compris, dans l'industrie, il y a aussi des femmes et il y avait des enfants. Parce que quand on dit que la classe ouvrière a évolué, c'est vrai qu'il y avait des enfants dans la classe ouvrière, il y avait beaucoup de femmes. Et c'est encore vrai dans certains pays. Et en ce sens, on pourrait aussi avoir une pensée, justement, pour la classe ouvrière mondiale, parce que il y a des pays où les conditions de travail sont, quand elles existent, ne sont absolument pas acceptables, des enfants dans les mines, dans voilà.
Encore de nos jours, donc.
Oui.
À l'époque, fin 19e, on peut parler aussi du temps de travail que pratiquait un ouvrier ou une ouvrière dans cette usine, et même les enfants d'ailleurs.
Alors, il y avait effectivement les enfants qui travaillaient, la loi l'autorisait, les gens travaillaient 6 jours sur 7 ou même quelquefois 7 jours sur 7, c'était des semaines non pas à 40 heures mais à 45, à 50, à 55 voire plus, et que les premières bagarres, je dirais frontales avec le patronat, ça a été pour obtenir la semaine de 6 jours, puis la semaine de 5 jours et enfin la semaine de 40 heures.
Et les congés payés?
Et bien sûr, les congés payés au milieu des années 30. Et tout ça, ça s'est fait à travers des mobilisations, des luttes, la création d'un rapport de force favorable au monde du travail. Et tous ces acquis, ils ont été arrachés pan par pan à travers des manifestations, dont celle dont on parle aujourd'hui, qui est celle du 1er mai.
Des grèves et des morts aussi.
Oui.
Et il ne faut pas oublier ça, c'est que tous les acquis sociaux l'ont été... sont pas dus à la générosité des possédants, mais bien aux luttes que nous avons menées, nous, les classes populaires.
Justement, quelles étaient les conditions du monde ouvrier pour pouvoir supporter ce rythme de travail?
Bah, c'était des, je veux dire, moi par exemple, je me suis dès mon plus jeune âge intéressé à la lecture et à des bouquins de Émile Zola par exemple, qui retrace très très bien avec énormément de descriptions ce qu'était la vie, que ce soit Germinal, la terre, les Rougon-Macquart, etc. Qui est un auteur qui a fait un travail d'investigation sociale extraordinaire.
Qui était journaliste.
Et, voilà, qui était journaliste, investigateur, écrivain et ça donne une résonance très très forte sur ce qu'étaient les conditions de vie de toute cette génération. Il n'y avait pas forcément à manger pour tout le monde tous les soirs, et c'était vraiment la bagarre pour survivre au quotidien. Et il fallait pas qu'un enfant tombe malade parce qu'il en mourait. C'était la promiscuité au niveau du logement. C'était des hivers glaciales sans chauffage. C'était des habits qu'on gardait tout l'hiver parce que voilà, c'était des conditions très très difficiles. Et les choses se sont améliorées, mais la dynamique capitaliste, elle est toujours là. Elle est évidemment toujours là, et le rapport de force, il est toujours présent. Et quand on arrive à les faire reculer ou à limiter la perte d'acquis durement acquis, justement, c'est à travers les mobilisations, la grève, le rapport de force.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui a permis à la classe ouvrière de subsister, c'est aussi la solidarité qui se concrétise au travers de l'adhésion à un syndicat. C'est la politisation qui avait lieu dans les cafés et qu'on n'a pas cessé d'attaquer. Et on peut dire que maintenant, là, nous sommes largement attaqués par les réseaux sociaux qui nuisent au rassemblement physique des gens. C'est-à-dire que le 1er mai, c'est en ce sens que c'est très important d'y être. C'est que il faut se voir, il faut se parler en direct et non pas à travers des réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que le nom, quoi.
Oui, moi je compléterai en disant que on a compris, quand on s'intéresse un petit peu à tous ces aspects de la vie sociale et politique, que la classe dirigeante aujourd'hui ne peut perdurer que si la classe dominée, voilà, pour reprendre des termes marxistes, si la classe dominée est divisée. Et tout est mis en œuvre aujourd'hui, clairement, à tous les échelons, que ce soit les médias qui relaient les grands patrons ou les partis réactionnaires. Tout est mis en œuvre pour que on se chamaille entre nous, qu'on se divise. D'un côté, il y a les jeunes, de l'autre, il y a les vieux. D'un côté, il y a les écolos, il y a ceux qui le sont moins. Il y a ceux qui vont à la chasse et ceux qui sont anti-chasse. Enfin voilà, tout est organisé pour que on soit pas unis, qu'on soit divisé, pour mieux pouvoir nous dominer. Et puis à travers des voilà, c'est un grand classique qui aujourd'hui, on le sent très très bien, ils n'ont de cesse de nous diviser pour mieux pouvoir nous dominer.
Et je voulais juste par rapport aux moyens qui nous permettent de tenir, il y a la solidarité, et c'est vrai, comme le rappelait Nicolas, il y a la culture et la littérature. Et à ce titre, je voulais juste reparler de Georges Navel, qui était qui a terminé sa vie à la Valdex, et qui est quelqu'un qui était ouvrier et qui parle admirablement de la condition mélancolique de l'ouvrier et des luttes. Et qui parle aussi du geste ouvrier, qui lui rend hommage. Et c'est vrai qu'on a peu d'écrits par un ouvrier qui célèbre à ce point l'intelligence du geste. Et je voudrais juste engager tout le monde à lire Georges Navel, travaux notamment.
Je reviens sur ton propos, Brigitte, par rapport à cette pression des réseaux sociaux hein, pour empêcher peut-être les gens de se retrouver. Il y avait sur une page de Wikipédia, sur l'histoire du 1er mai, une notification, une indication comme quoi ces manifestations du 1er mai ont lieu en général dans des grandes villes. Et là, je me rends compte quand même que même dans les villages ou dans les petites villes, il existe aussi cette fête du 1er mai. Donc, il y a un petit peu une contradiction entre cette pression des réseaux sociaux et en même temps la réalité qui fait que il y a des manifestations qui ont lieu de plus en plus à travers la France.
C'est-à-dire que peut-être que ça vient aussi de la sociologie des zones rurales où beaucoup d'urbains viennent s'installer et amène avec cette culture du rassemblement. Je pense que mais cependant, dans la culture rurale, il y a des rassemblements aussi. Il y a toujours eu des rassemblements. Dans le monde paysan, il y a eu déjà cris, il y a eu des mouvements d'opposition et de révolte. Elles ont d'ailleurs commencé comme ça, en fait, hein, avant l'ère industrielle. Donc il y a une capacité aussi du monde rural à se rassembler. Et j'espère que nous arriverons à rassembler tout le monde le 1er mai.
Oui, et je compléterai qu'a dit ce qui nous a motivé pour reprendre des cortèges et des défilés pour le 1er mai, ça a été l'épisode de réforme contre les retraites, hein, réforme des retraites en 2023. Où il y a eu, rappelons-nous, une quinzaine d'appels à manifester, et à quelques-uns, on s'est dit, allez, on essaye de faire quelque chose sur 10, on verra si ça prend, si on est 20 ou 30, alors on laisse tomber, et si on est 100 ou plus, on continue. Et on a été, dès le premier rassemblement, 300 personnes, au mois de février, je crois, et on a déroulé toutes les manifestations appelées par l'intersyndicale, qui nous ont amené jusqu'à l'été 2023. Et au milieu de tout ça, il y a eu le 1er mai et donc on était sur la lancée et on a, réouvert la tradition d'un défilé le 1er mai à 10 puisque ça avait été un peu perdu. Donc depuis 2023, on est en 2026, donc ça sera là dans quelques jours, la quatrième année consécutive où un groupe de citoyens engagés organise une manifestation spécifique pour le 1er mai.
Ce 1er mai, donc, a dit, il y aura 24 organisations représentées pour cette journée. J'en cite, je vais peut-être toutes les citer quand même, Amnesty International, Terre Solidaire, CGT, Chômeuse Gohon, Collectif Biodiversité d'Iwa, la CLCV, d'Iwa Ouvert et Solidaire, Diversion, d'Iwa Palestine Solidarité, Help Forêt d'Iwaise, Jumelage, dit Zeritzia.
C'est la ville avec laquelle dit projette de se jumeler, en effet, en Palestine, en Cisjordanie.
L'Abîme, la Confédération Paysanne Drôme, LFI, La Parallèle, la cantine palestinienne du Diwa, le comité des réjouissances, les popotes, les kirettes de Di, Ligue des droits de l'homme, Refuge de la Tour, souvent les centres de santé sexuelle, tous migrants et voix libre. Donc, il y aura une grande représentation publique de ces mouvements. Chacun prendra peut-être une parole pendant cette journée.
Oui, alors plus que la parole, ça va être plutôt des tables à partir desquelles les échanges seront possibles avec les associations d'une manière plus concrète et les tables seront constituées par thème. Et on pourra circuler selon l'intérêt qu'on porte sur certaines tables où seront présentes les associations. Voilà.
Enfin, oui, alors Nicolas, ce qu'il faut préciser, c'est que cette initiative du 1er mai cette année, elle est prise en charge par un collectif qui s'appelle Pour un Diwa ouvert et solidaire, qui œuvre depuis la dissolution de l'Assemblée générale.
Nationale.
L'Assemblée nationale, la dissolution, c'était en 2024, voilà, où on a été appelé à voter dans un délai très très court pour un nouveau député. Et il y a des citoyens qui ont pris ça à bras le corps en se disant c'est trop important. Il y a un risque assez réel, peut-être un peu moins dans le Diwa, mais assez réel au niveau de la France, que nous nous retrouvions avec une majorité à l'Assemblée nationale de personnes issues du mouvement de l'extrême droite. Et donc, ces citoyens ont mené campagne pour lutter contre la propagation et des idées de repli sur soi, de racisme, etc. Et suite à ça, ce groupe, après les élections, a perduré, a organisé différents forums pendant l'automne jusqu'au printemps de l'année suivante. Et là, l'idée, c'était de profiter de cette énergie et de cet élan pour organiser avec toutes les associations qui se reconnaissent dans ces valeurs, qu'elles soient au niveau de la défense des salariés, que ce soit au niveau de la défense de la nature, que ce soit au niveau de la défense des oppressions, des discriminations, etc. Toutes ces associations ont été sollicitées. Certaines nous ont répondu favorablement, d'autres moins. Voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une vingtaine. Il y a aussi des gens qui sont en train de venir vers nous là dans les dernières semaines. Il y a le syndicat Force Ouvrière là qui vient de nous rejoindre. Il y a le Parti communiste français section d'Oise qui envisage très fortement aussi de venir nous rejoindre. Et chaque association aura un stand spécifique, aura quelques instants où elles pourront présenter leur association en quelques minutes devant l'ensemble des gens qui seront présent l'après-midi, et ensuite il y aura des discussions sur des thèmes définis sur des tables avec voilà, les gens pourront passer d'une table à l'autre si le sujet ne les intéresse plus, et ces discussions qui vont durer 1h30-2h feront l'objet d'un petit compte rendu, et ensuite on basculera sur la deuxième partie de la journée qui sera plus festive, on va dire.
Mais c'est une surprise.
Ouais.
Alors, dans les thèmes de par exemple, des tables, nous avons les droits humains, une table droits humains, une table, bien sûr, travail avec les syndicats, droit nature, biodiversité, lutte contre les discriminations, défense, service public, logement et montée du fascisme. Bien sûr, il y a des points de convergence au travers de tous ces thèmes. Néanmoins, ils sont traités voilà, par les différentes associations qui portent ces thèmes.
Il y avait Terre de lutte, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Ils sont partie prenante plus ou moins de cette journée.
On est en lien avec eux au niveau du Pour un Diwa ouvert et solidaire, du groupement. Ils seront pas forcément présents, mais on a des échanges réguliers. Ils sont venus nous faire un petit diagnostic social et politique des forces en présence dans la vallée il y a à peu près un an et demi. Voilà, un an et demi. Ce sont des gens avec lesquels nous sommes en contact. C'est un réseau national, ce qui rend la lutte encore plus intéressante, hein, de faire partie d'un réseau. Oui, on est parfaitement en phase avec eux.
Alors, je ne sais pas si on fera tellement école auprès des personnes qui sont tentées par une réponse fasciste, ou enfin pas forcément fasciste, mais comme ils le disent, dédiaboliser Rassemblement National. Parce que il y a quand même des études, hein, qui montrent que ce sont des territoires où il y a beaucoup de personnes qui votent pour le Rassemblement National et qui cautionnent du coup la montée du fascisme. C'est des territoires où, oui, les services publics diminuent. C'est des territoires paupérisés, et je dois dire que le Diwa est bien rempli, enfin coche les cases quoi, hein, 22% de taux de pauvreté, des services publics qui raréfient leur présence. Donc on a toute possibilité d'imaginer le repli sur soi, la peur de l'autre, etc. quoi.
Au moment des Gilets jaunes, justement, il y a eu cette perte de frontières entre les mentalités, les groupes de sociétés. Hein.
On pouvait
très bien croiser des gens de l'extrême droite ou de l'extrême gauche et qui parlaient entre eux. Donc, il y a eu quand même un déclic à ce moment-là. Et peut-être regretterait-on que ça n'ait pas pu perdurer.
C'est vrai.
Oui, c'est, ça a été un grand moment de rencontre, de partage, de discussion. Moi, j'étais assez partie prenante sur ce qui s'est passé à Die, et je crois que on a passé 6 mois les uns et les autres à énormément discuter, à se confronter au niveau de nos idées. Et puis ça a fait l'objet, moi je me rappelle très bien, au niveau national, d'un document qui reprenait les 42 premières revendications des Gilets jaunes sur le document pour lequel l'ensemble des groupes, il y en avait 500, 600, 1000, je sais plus, s'étaient mis d'accord. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant pour ceux qui veulent toujours caricaturer les choses et les simplifier à l'extrême, il est exact que le fait déclencheur, ça a été l'augmentation de la taxe des carburants avec la taxe carbone. Mais quand on regarde ce tableau qui était classé par ordre croissant, cette revendication, elle arrivait en 15e ou 16e position. Et les premières revendications, elles étaient purement social, c'est-à-dire la première, c'était plus personne qui vit dans la rue et qui tend la main pour avoir une pièce pour pouvoir s'acheter un sandwich. La deuxième, c'était une augmentation des minimaux sociaux. La troisième, c'était des conditions de travail dignes, respectueuses pour tous, etc. Voilà, c'est j'allais dire, c'était un fond de sauce quand même très très social, très très social.
Et c'était durement réprimé hein, par le gouvernement à ce moment-là.
Donc, 26 éborgnés, je ne sais combien de personnes qui ont perdu leurs mains, leurs pieds. Donc oui, c'était. On a été d'ailleurs épinglés par l'Europe hein, pour notre traitement des manifestations. On n'avait jamais vu ça en France, hein, y compris en mai 68.
Et donc. Ce gouvernement et donc sa persistance hein, aujourd'hui qui propose donc de remettre en cause ce 1er mai, ça aussi c'est une nouvelle lutte qui s'engage. Est-ce qu'il y a une vigilance de la part de toutes ces organisations pour contrer cette proposition? Alors il y a une chose qui me sidère un peu, c'est qu'au sortir de la Révolution française, il est instauré une loi comme quoi il y avait obligation qu'il y ait une boulangerie ouverte dans chaque village pour que tout le monde puisse avoir du pain. C'était la raison de cette manifestation hein, de la Révolution. C'est le manque de nourriture hein, qui a poussé les gens dans la rue. Cette loi a été abrogée sous Nicolas Sarkozy. Donc, il y a un moment donné, je me pose la question, mais il faudrait savoir, il n'y a plus d'obligation, mais en même temps, les boulangers veulent ouvrir le 1er mai, donc...
Enfin, les boulangers et les patrons, pas forcément les employés.
Je suis rentré dans une boulangerie, hein, la semaine dernière, il y avait une affichette qui disait « On veut la boulangerie ouverte le 1er mai
voilà. ». Mais pour ne pas fermer, pour faire une journée de travail, des profits, quoi, enfin, ce qui est bon, ce qui est entendable, hein. Sauf que, symboliquement, le 1er mai, c'est un jour chaud mais payé, c'est un endroit, c'est un sanctuaire d'une certaine manière de toutes les luttes sociales et enfin de l'attaquer. D'ailleurs le maire de Liévin, je ne sais pas si vous êtes le maire RN de Liévin, donc a supprimé la commémoration du 1er mai. Donc dans les mairies, gouvernées par le RN, il semblerait que ça puisse s'étendre. C'est non seulement attaqué par le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais c'est également attaqué par l'extrême droite très très clairement. Hein, il dit, je vous dis juste ce qu'il a dit. C'est que nous avons supprimé la cérémonie à l'hôtel de ville où avait lieu jusqu'à présent une espèce de meeting des syndicats d'extrême gauche. L'objectif, c'est de ne pas laisser une tribune politique aux syndicats. Il n'est pas question de leur permettre ça. Donc on voit bien que là, maintenant, on est rentré, je dirais, dans le dur de la préservation de certaines choses.
Est-ce que le 1er mai est défendu dans la Constitution ?
Ce qui est défendu dans le préambule de la Constitution, c'est le travail pour tous, dans l'article 5. Hein. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Alors je ne sais pas si le 1er mai dans la Constitution, mais en tout cas il existe dans toutes les conventions collectives, c'est un jour dans la fonction publique, c'est un jour chômé payé. Voilà, ça existe dans le droit du travail en tout cas et le droit social.
Je Je reviens un peu sur cette journée, donc rassemblement à 10h devant la cité scolaire. Il y aura des activités annexes en préparation avant cette journée.
Ah bah oui, on prépare la journée, hein, Nicolas.
Oui, là ça fait, il y a un groupe de 15-20 personnes qui se retrouvent tous les lundis soirs. Je crois qu'on va être lundi prochain à la dernière réunion. Je crois que c'est la 9e ou la 10e. Voilà, pour se mettre d'accord, pour organiser, prendre contact avec les associations, leur proposer la participation. Et puis après ça, il y a toute là on est sur la dernière ligne droite, là, donc les autorisations avec la mairie, les pouvoirs publics, la réservation des tables, des chaises, enfin tout ce qui fait, tous les ingrédients pour une fête réussie. Le parcours a été déclaré. On arrive devant la sous-préfecture. Il y aura des prises de parole des syndicats et des partis politiques qui seront présents et qui souhaitent prendre la parole avant de se retrouver pour un apéritif chanté sur la place de l'évêché et poursuivre donc l'après-midi comme on l'a présenté tout à l'heure, avec une soirée festive à partir de 17-18 heures.
C'était pour savoir s'il existait des ateliers de confection de banderoles ou de...
Ah bah oui, alors là, tout le monde est bienvenu, disons que... tout le monde est bienvenu à la manifestation avec sa pancarte, hein, c'est l'imagination au pouvoir, hein, de ce côté-là.
Il n'y a pas de préparatif en amont dans
tout
ça.
Si, nous on prépare, mais ouais. C'est ce qu'on dit, quoi.
Pas besoin de volontaires ou de bénévoles.
Ah ben toujours.
Si,
toujours.
On a besoin de bénévoles dès le matin du vendredi à partir de 8h sur la place de l'évêché pour nous aider à installer les tables, pour nous aider à tirer les câbles électriques, à installer le podium pour la scène, pour sécuriser le lieu avec des barrières, voilà. Bien sûr, on a besoin de bénévoles, il y aura une buvette et on a besoin de binômes pour tenir la buvette. Il y aura besoin d'avoir une équipe pour s'occuper des déchets, une équipe pour s'occuper des toilettes, s'assurer qu'elle reste propre sur l'ensemble de la journée. Il y a un groupe d'adultes qui vont gérer des activités pour les enfants qui le souhaitent. Il y a évidemment des repas qui seront servis. On a 3-4 associations qui viennent nous proposer leurs prestations. Les choses seront... On ne veut pas faire de cette journée une journée commerciale où les associations gagnent de l'argent en vendant des repas ou des glaces ou des crêpes. On va faire les choses à prix coûtant. Si les gens veulent donner un peu plus par solidarité, ça reviendra une caisse commune qui servira pour les luttes futures et pour les frais de justice des camarades. Voilà, assez classiquement une caisse de solidarité.
À 11h30, donc l'apéro chanté.
Oui. À 11h30, oui, à 10h, rassemblement devant la cité scolaire. À 11h30, l'apéro chanté, en effet.
Avec, je crois qu'il y a...
Justine,
voilà.
Très bien. Et ensuite, le repas, hein, avec les popotes et Diwa Palestine Solidarité.
La cantine, oui, la cantine palestinienne, ouais, tout oui. À fait. Et puis, il y a d'autres associations qui vont également proposer, même à midi, il y a des gâteaux par
les
ouvriers. Voilà, les ouvriers agricoles. Oui. Voilà, il y a différentes autres petits encas qui seront proposés également.
À 14h, il y aura ce forum des luttes oui. solidaires. Donc,
au travers des
sur les tables.
Voilà,
avec ces tables. Et puis ensuite, à 17h, il y aura un concert d'émeute.
Oui, tout à fait. Avec la buvette ouverte, voilà.
La bime.
Oui.
Et puis le concert des oiseaux de trottoir.
Oui, c'est ça.
Alors, les oiseaux de trottoir, c'est un groupe assez atypique de gens passionnés de chant, de chansons françaises, mais pas que. Un petit peu avec des instruments. Il doit y avoir un ou deux saxos, des guitares.
Oui, c'est un petit orchestre.
Un petit orchestre, mais ils sont assez nombreux.
Oui,
ils peuvent être facilement
ou moins,
10 ou 12 ou 16.
Oui.
Et voilà. Et il y a des structures un peu partout en France. C'est quelque chose qui a pris dans la Drôme. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelque temps qu'il y avait un groupe qui était en train de se monter avec des gens du Diwa, des gens de Cré, pour créer un groupe, les oiseaux de trottoir de la Drôme, comme il peut y avoir ailleurs.
Autour de ces propositions, est-ce qu'il y a aussi des tables de presse ou des infokiosques pour peut-être être au fait un peu de l'actualité?
Alors chaque association aura la possibilité d'avoir un espace dans lequel il aura donc toute sa documentation qui sera à disposition des participants, bien sûr. Et puis sinon, voilà.
19h, un repas encore avec Voie Libre, Crêpes Maria et Diversion.
Alors Crêpes Maria, c'est plutôt les crêpes proposées par la France Insoumise. C'est crêpes sucrées, c'est en complément du repas en fait. Hein. Il y a une petite...
Voie Libre, bon, c'est l'association de...
C'est ça, de Verchenie.
Mmh. Oui. Mmh. Et puis Diversion, c'est une association qui s'occupe d'organiser parfois des vides-greniers.
Voilà, c'est ça, c'est eux. Ils sont... eux aussi, ils existent depuis 4 ou 5 ans à Die, avec là aussi un souci de solidarité, d'aide aux plus démunis. Donc quand ils organisent un vide-grenier, les bénéfices, ça va à une personne qui a un problème de logement, une personne qui a un problème de papier. Voilà, c'est il y a une véritable connotation sociale.
Et pour bien digérer, il y aura ce bal populaire. Ce forum des luttes solidaires, ce n'est pas que le 1er mai, il y a aussi des actions hein, tout au long de l'année, avec toutes les structures que j'ai citées. Est-ce qu'il existe des moments aussi pour se retrouver?
Alors, le 1er mai sera un moment pour se rencontrer, faire connaissance et travailler ensemble. Et après ça, selon les envies des uns et des autres, on poursuivra des initiatives sous d'autres formes, à d'autres moments. Voilà. Pour le moment, on est un peu focalisé sur le 1er mai, qui est un gros morceau. Et on verra quelle suite on donne à tout ça.
L'affiche est composée par un graphiste de Solor, je crois.
Oui, oui.
On peut donner son nom ?
Il n'y a pas de souci, à mon avis, tu peux donner son prénom.
Ouais. Mais justement, je le demande.
Oui, c'est Élie.
Élie, c'est ça. Élie qui est professionnel et qui nous a réalisé la maquette.
Avec ses personnages de San Kukai.
Voilà.
dans lesquels on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas.
Voilà, ouais. C'est particulier.
Oui.
C'est peut-être générationnel.
Est-ce qu'il y a des infos ou des lieux d'Internet pour pouvoir justement se mettre au fait de l'actualité du Diwa, notamment dans ses luttes ?
Alors, une adresse qui recouperait l'ensemble des luttes menées par ces 20 associations, partis politiques et syndicats, je crois pas. Il y a une adresse pour un Diwa ouvert et solidaire. Chaque association est représentée avec ses activités, ses adhérents, ses statuts, etc. Non, on n'a pas vraiment une adresse qui regroupe tout le monde.
C'est vrai que c'est une excellente idée.
Oui.
Donc c'est un des projets qu'on aura après.
D'autres informations à donner peut-être pour d'autres dates à suivre ?
D'autres dates, non. Pour le moment, on n'a pas fixé d'autres choses. Donc on invite les Diwas et les Diwas à venir dès le matin à 10h, participer à ce rassemblement qu'on espère revendicatif et festif.
Et joyeux.
Et joyeux. Et poursuivre avec nous sur la journée. Et donc cette journée, évidemment, elle ne s'adresse pas exclusivement aux gens de Die. On a des copains qui viennent et des copines qui viennent un peu de partout. Il y aura des gens qui viendront de Saillant, il y a des gens qui viennent des villages du Haut Diwa. Il y a des affiches qui seront mises sur les panneaux d'affichage. On informe les différents réseaux par le canal habituel de mail de réseaux réseaux sociaux. Et puis on sera présent sur les marchés ces prochains jours pour distribuer des tracts. On sera présent devant les grands magasins de Die, dans les rues, pour inviter très largement l'ensemble de la population. Et évidemment, tout le monde est invité, y compris les enfants.
Le 14 juillet 1789 a donné lieu à cette fête qui est devenue peut-être une vitrine de l'armée plutôt. Est-ce que le peuple n'a pas le droit au chapitre aussi d'avoir une présence festive de cette journée ?
Si, alors on a, alors vous êtes pas sans savoir, Yves, que on a changé de majorité à la commune, à Die. Ah. On a une nouvelle équipe qui équipe municipale et ils ont le projet de créer un comité des fêtes, d'animer toute une série d'événements dans l'année, peut-être un 14 juillet. Voilà, on a encore pas tous les éléments, les choses sont en train de se mettre en place, mais oui, le 14 juillet restera, oui, pourquoi pas, un événement intéressant avec des choses à mettre en place.
Brigitte et Nicolas, je vous remercie tous deux d'être venus donc, nous parler du Forum des luttes solidaires, manif du 1er mai. Ça sera donc à partir de 10h à la cité scolaire et ensuite un cheminement jusqu'à la place de l'Évêché.
Oui.
Merci, Yves, à bientôt.
Merci, bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.
Soyons clairs, RDIWA, c'est la meilleure radio. C'est tout.
Ouais.
Shut up!
Hey,
We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives.
Poison venom's hanging over me.
sur RDIWA.
Il est 20h.